Bonjour frères et sœurs. Très heureux d'être avec vous donc pour cette journée. Voilà, je suis un retraité et j'ai l'habitude d'ajouter administratif. Parce que, comme vous le savez, comme je disais à quelqu'un l'autre jour, c'est pas un ministère, c'est pas un travail, pardon, mais c'est une vocation. Et je crois que Dieu nous a donné cette vocation d'apporter la parole de Dieu, il nous a appelés, et je bénis son saint et son grand nom, donc pour maintenant ces années qu'il m'a données de le suivre, qui sont une preuve de sa fidélité, de sa miséricorde, de toute sa bénédiction. C'est en novembre 67 que j'ai commencé à servir le Seigneur, donc dans la ville de Perpignan, aux côtés de Monsieur et Madame. Pour ceux qui les ont connus, monsieur et madame Le Filâtre, que j'avais rencontré en 65 lors des camps de jeunes à Embrun. Ils ont dû nous mettre une bonne dose de piqûre, puisque nous sommes devenus ensuite pendant 10 ans les responsables du centre de vacances, et nous y avons été pendant bien longtemps, donc ça nous a permis de connaître beaucoup de monde, et d'avoir la joie toujours partout où on va. Il n'y a pas longtemps, nous étions sur Cluse, Oyonnax, Annecy, Genève et Annecy aussi. Et on a rencontré des gens qui ont connu la colo, qui sont passés par la colo, alors que Dieu soit béni pour cela. Et je sais qu'il y en a ici aussi, ça me fait un grand plaisir de vous revoir. Toutes mes félicitations pour cette belle réalisation. Nous avons été tenus au courant par votre pasteur. De temps en temps, sur notre boîte email, il y avait des photos de l'avancement, de ce qui se faisait ici en Arles. Et quand on voit bien cette belle réalisation, on ne peut que dire « Gloire à toi, Seigneur ». Alors, je laisserai tout simplement sur votre cœur un sujet de prière pour la ville de Hyères, dont vous avez les salutations de l'église et du pasteur Mathias, parce que nous sommes à la recherche d'un local et nous avons en vue un local. Donc le frère Mathias s'occupe de ces choses et m'a aussi demandé de l'aider dans la réalisation de ce projet pour toutes les parties techniques, puisque on a fait la colo de Gap et d'autres endroits aussi. Donc nous sommes engagés dans ce projet. On attend la réponse, on a fait une offre de prix, on attend la réponse. Alors priez pour que les propriétaires soient favorablement inclinés pour cette proposition. Mais nous avons vraiment besoin, ça fait des années et des années. Et vous savez, Hyères, c'est cher, c'est très cher. On est au bord de l'eau, on a le soleil, c'est vrai, mais ça coûte très cher. Alors prions, parce que rien n'est impossible à notre Dieu, il est le même, il ne change pas, et il peut faire encore au-delà de ce que nous pensons et espérons. Nous l'avons vu plusieurs fois dans notre vie, faire de grandes choses, à son nom soit toute la gloire. On va lire dans Samuel, 1 Samuel, chapitre 10, verset 1er, et je me réjouis également pour ce baptême aujourd'hui, et je sais ce que c'est, j'ai baptisé mes trois enfants en son temps, et je sais ce que c'est que de voir nos enfants, parce qu'ils naissent dans un foyer chrétien, c'est vrai, ils ont un privilège, mais ce n'est pas évident ensuite de s'engager, ils ont toujours baigné là-dedans. Donc il y a une expérience à faire un jour, et quand ils la font, eh bien béni soit le Seigneur, parce que ça leur permet de pouvoir s'engager en plein, donc dans l'œuvre de Dieu. Voilà, 1 Samuel, chapitre 10, verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsach, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le temple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, chercher les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen. Au verset premier, nous avons lu, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et je voudrais ce matin partager avec vous quelques pensées sur l'onction. Parce que le principe de Dieu qui dure encore aujourd'hui est que nous avons besoin de l'onction pour son service. Nous avons besoin d'une puissance, nous avons besoin de quelque chose de fort. Et ce quelque chose de fort, eh bien, nous le retrouvons puisque dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il y a là un verset que vous connaissez certainement par cœur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu nous a armés. Et comme il a dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Nous pourrions dire, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois son témoin, pour que tu portes encore ce beau, ce grand message de la parole de Dieu. Déjà dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que les hommes de Dieu étaient oints. Et que Samuel peut nous dire au chapitre 16, verset 13, que David est saisi et il va être oint par l'Éternel. Nous trouvons également dans le livre du Lévitique, au chapitre 8, verset 30, que Aaron va être aspergé par Moïse, qui va répandre sur lui cette puissance, ce Saint-Esprit. Dans le livre des Rois, nous voyons que c'est Salomon qui lui aussi va être oint. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous avons notre modèle, nous avons notre chef, notre maître, Jésus. Et lui aussi dira, dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Lui, Jésus, peut dire qu'il a été oint du Saint-Esprit, et à plus forte raison, nous, ses enfants, avons-nous besoin également d'être oints? Avons-nous besoin de cette force qui est extraordinaire, qui est formidable et qui nous donne tout ce qui est nécessaire? D'ailleurs, Quand on regarde le livre des Actes des apôtres et que par exemple on voit l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, on trouve là un homme changé, transformé. On voit le Pierre qui est là dans les évangiles et puis on voit le Pierre qui maintenant, eh bien, continue son ministère et va être au service de Dieu, rempli de la puissance de l'Esprit. Ce n'est plus le même homme. Il est différent. Et ce matin, eh bien, puissions-nous les uns et les autres savoir que Dieu veut nous remplir également du Saint-Esprit. Non pas simplement un, mais il veut nous remplir à plusieurs. Et j'aime bien également ce psaume 133, psaume de David, où il est dit: Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est doux d'être avec vous ce matin, de partager ces moments. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alléluia. C'est là que l'Éternel va envoyer sa bénédiction ce matin sur chacun d'entre nous pour nous bénir. Et je pourrais dire que l'onction, ce n'est pas une option, mais c'est nécessaire. Et je crois que vous et moi, nous avons besoin de cette onction, surtout, je dirais encore plus, dans les temps que nous vivons, ces temps difficiles, ces temps troublés, ces temps qui sont de plus en plus mauvais à vivre. Nous avons besoin de ce qui fait la différence entre les gens du monde et nous, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. Le but de l'onction de Saül était de le consacrer en vue de la tâche particulière qu'il devait accomplir et pour laquelle il avait été appelé. C'était lui communiquer la grâce et les dons qui étaient nécessaires pour qu'il puisse remplir bien comme il faut la mission que Dieu lui avait confiée. Malheureusement, on sait que la fin de sa vie sera catastrophique, qu'il abandonnera tout ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, mais ce début de sa vie nous apporte quelques éléments que nous voulons partager ensemble. Le roi, le dernier roi qui a été oint, c'est Jésus le Messie. Massiab en hébreu, qui veut dire loin. Et quand Jean-Baptiste le verra venir, lui qui a préparé son chemin, il dira: J'ai vu une colombe, hein, l'esprit sous la forme d'une colombe, descendre sur lui. De même, nous devons nous aussi être remplis par le même esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21, il est dit: Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous sommes marqués, alléluia, nous sommes marqués par un sceau, le sceau du Saint-Esprit. Nous sommes marqués par cette présence de Dieu. Et ça se voit lorsque nous sommes sous l'onction de l'Esprit, que ce soit pour notre témoignage, que ce soit dans notre prière, dans notre vie chrétienne, que ce soit pour faire chanter, pour jouer de la musique, que ce soit dans différents domaines, nous avons besoin, que ce soit pour apporter la parole de Dieu, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Je me souviens avoir un jour dit à un jeune de l'église de hier, qui est excellent dans le domaine de la musique, hein, c'est un musicien né, médaille d'or de saxo, pianiste. Hein, il joue 4, 5, 6 instruments, je ne sais pas, il compose, enfin c'est formidable. Hein. Je dirais c'est un pro. Et un jour je parlais avec lui et je lui disais: Tu vois, Luc, c'est bien, tu joues d'une façon excellente. Mais sache une chose, c'est que quand tu joueras sous l'onction de l'esprit, ça sera encore différent et ça sera encore plus extraordinaire. Et béni soit le Seigneur parce qu'il a mis ça derrière son oreille. Et je sais que c'est un garçon qui se tient devant Dieu chaque fois qu'il doit servir le Seigneur dans le service de la musique. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui agit, il y a l'onction de l'esprit. J'ai vécu une fois quelque chose de particulier, c'était à la colo, et on en a vécu des choses particulières, mais cette fois-là, c'était dans une grande réunion de jeunesse, et il y a eu un parler en langue. Et le frère qui dirigeait a dit, nous allons demander au violon de nous donner l'interprétation. Alors je sais, ça va peut-être vous étonner, ce matin, je ne l'ai vu qu'une fois et je ne dis pas que c'est à recommencer. Mais le frère qui jouait du violon, c'était un étranger qui jouait du violon, a pris son violon et il a joué. J'en suis encore ému, parce que toute l'Église a été saisie. Il y a eu des repentances, il y a eu vraiment une action du Saint-Esprit. Il y avait une onction sur ce violon que chacun, au travers de ce qui était joué par cet instrument et par et cet homme, parlait au cœur d'une façon particulière à chacun. Je crois que Dieu fait ce qu'il veut, hein. Il fait comme il veut. Je ne l'ai jamais revu et peut-être je ne le reverrai jamais. Mais ça a été une expérience qui a marqué ma vie, qui a montré ce que l'onction du Saint-Esprit pouvait faire avec un instrument, avec quelqu'un qui est prêt à dire Seigneur, me voici, je m'offre à toi, sers-toi de moi. Que ce soit pour faire chanter, que ce soit pour prier, que ce soit dans tous les domaines, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de l'onction. Dans 2 Jean 2, 20, il est dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, vous avez tous la connaissance. Oui, l'onction nous amène à avoir la connaissance. L'onction nous amène à être différents. Nous sommes limités de par ce que nous sommes des humains, mais Dieu va nous donner au travers de l'onction. Et il se trouve que l'on peut parfois eh bien partager, parler, et sous l'onction de l'esprit dire des choses, et les gens ouvrent des grands yeux. Et dit, mais d'où vous me connaissez? Mais comment ça se fait que vous me dites cela? Personne ne le sait. C'était quelque chose caché de ma vie. Oui, mais l'Esprit de Dieu l'a révélé. Il y a eu un esprit de discernement, il y a eu un esprit de connaissance, et vous avez fait, je pense, de telles expériences, mes frères et sœurs. Pour servir, je dirais que nous avons besoin de cette onction, et qui fait, je le répète encore une fois, toute la différence, et nous laisser interpeller, nous laisser saisir. Parce que c'est là ce qu'il nous est dit au verset 6 de notre texte, l'esprit de l'Éternel te saisira, est-il dit à Saül. L'esprit de l'Éternel te saisira. Est-ce que nous laissons saisir par l'Éternel? Une autre version dira, l'esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Et littéralement, cela veut dire, l'esprit de l'Éternel sautera sur toi. Et comme quelque chose qui saute sur vous et qui vous accroche, qui vous saisit. Et je crois que nous avons besoin de cela. Est-ce que parfois nous ne résistons pas? Est-ce que parfois nous sommes avec d'autres choses? Mais laissons-nous saisir par l'onction. Laissons-nous saisir par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a là une promesse. Et il y a une promesse qui est encore pour nous ce matin. Béni soit le Seigneur. Je répandrai mon esprit sur toute chair, dira Joël. Et c'est répété dans les Actes des Apôtres. Et puis, dans Matthieu 3, 11, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Alors, je ne sais pas si notre jeune frère qui est baptisé d'eau est déjà baptisé du Saint-Esprit. Ça arrive des fois que, hein, il se passe là, mais en tout cas, s'il n'est pas encore, eh bien, c'est pour lui ce matin, et c'est pour vous qui n'êtes pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Nous croyons que le Seigneur est là pour se manifester et pour baptiser d'Esprit Saint et de feu. Il dit encore, j'enverrai sur vous et vous serez revêtus de cette puissance du Saint-Esprit que Dieu soit béni. Oui, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Ah, où en êtes-vous dans
Mmh.
le baptême du Saint-Esprit? Où en êtes-vous dans votre vie de communion, d'onction avec Dieu? Je crois que certains peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit s'ils ne l'ont pas été, mais d'autres peuvent être renouvelés parce que c'est quand la dernière fois que vous avez parlé en langue? C'est quand la dernière fois que vous avez été saisi par l'onction de l'Esprit? Peut-être qu'il y a dans votre cœur, et je le souhaite, une soif, qu'il y a quelque chose, et Jésus dira, si quelqu'un a soif, le jour de la fête, le grand jour, il dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et tout nous montre que Jésus est prêt à nous le donner. La promesse est pour vous, dira le livre des Actes des Apôtres, et Pierre le dira, la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alléluia. Ne vit-on pas souvent avec les choses du passé, en disant oui, mais dans le temps, de mon temps. Je serais parfois tenté de le dire, de mon temps, il y avait ci, il y avait ça, etc. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Le Seigneur n'a pas changé. Nous, nous avons changé, mais lui, il n'a pas changé. Et dans Jean 14, 16, il est dit, je prierai le Père et il vous donnera. Je le prierai et il vous le donnera. Et dans le chapitre 16 et verset 7, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai, dit Jésus, l'Esprit, afin que vous soyez remplis, afin que vous soyez bénis de la part du Seigneur. Donc, se laisser emporter. Se laisser, eh bien, saisir par l'onction, par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons dans la suite qu'il lui a été dit également, tu prophétiseras avec eux. Je crois que non seulement l'onction nous est donnée pour que nous puissions être baptisés dans le Saint-Esprit, que nous puissions parler en langue, et Paul disait, je parle en langue plus que vous tous, mais également pour que nous puissions exercer les dons spirituels. Tu prophétiseras avec eux. Certainement, il disait des louanges à Dieu au travers des prophéties et des cantiques sous l'onction de l'Esprit. Tu prophétiseras avec eux. Tu parleras de la part de Dieu. Combien c'est formidable quand nous entendons une prophétie, quand nous entendons Dieu nous parler, nous dire. Et l'apôtre Paul pouvait dire également, eh bien, que tous prophétisent. Ce n'est pas réservé à une élite, mais c'est tous que nous pouvons accéder à ce domaine des dons spirituels pour que nous puissions les exercer, et cela pour l'édification de l'Église, pour que le peuple soit édifié, pour que nos cœurs soient édifiés, pour que notre vie soit bénie dans le Seigneur, mais que nous puissions bénir les autres, parce que ce n'est pas simplement donne, 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 mais que je puisse aussi donner, Seigneur, à tous ceux qui m'entourent. Une autre chose que nous voyons également et qui lui est dit, tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Dieu nous donne de devenir des hommes et des femmes nouveaux en déversant sur nous son onction, en déversant son Saint-Esprit. Et cela, eh bien, sera maintenu si nous restons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voyons malheureusement que à cause de la désobéissance, Saül a tout perdu parce qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Alors il a tout perdu et on va pas rester dans cette chose négative. Mais je voudrais plutôt vous enterrer, vous pas vous enterrer, non, parce que vous entraîner. Ma langue a fourché. Je voudrais vous entraîner dans ce qui est nouveau. Dans Ézéchiel 11, 19, il est parlé de l'Esprit qui donne un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Nous donner une nouvelle façon de voir. Non plus de voir comme le monde voit, mais de voir comme Jésus voit les choses. Comme le chrétien doit voir les choses, au lieu de pleurer, de se lamenter, d'être là, désabusé, découragé. Non, on a un esprit nouveau et on sait très bien ce que ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est ce que le Seigneur a annoncé dans sa parole. Dans Romains, chapitre 6, verset 4, il est dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et vous verrez dans l'Épître aux Romains, comment il est parlé, que nous ne sommes plus des esclaves de l'adversaire, du diable, que nous ne sommes plus sous la coupe du péché, que ce n'est plus le péché qui est vainqueur, mais que c'est le Saint-Esprit qui est vainqueur, et que c'est la nouvelle nature, eh bien, qui maintenant est là pour que nous puissions agir. Et Paul de dire aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah bon. J'ai pensé que vous étiez étonné. Je m'attendais à un fulgurant amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Amen.
La moitié. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Amen.
Voilà, il y a 98%. Oui, nous sommes des nouvelles créatures. Mais il faut le proclamer. Il faut l'affirmer. Au nez et à la barbe de celui qui est notre adversaire. Et qui voudrait nous dire, regarde, le vieil homme, hein, il a encore la belle part dans ta vie. Hein, il a encore ses manifestations. Non. Nous voulons confesser que Jésus est le Seigneur et qu'il nous a oint de sa puissance, de son Saint-Esprit, pour que maintenant nous puissions donner gloire à son nom. Il est dit dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 15, « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau. » La chair, elle a été vaincue. Et maintenant, eh bien, c'est un homme nouveau avec le Seigneur qui est là et qui agit et qui glorifie son nom. Nous avons quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, lui a été dit, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Vous les discernez peut-être pas, les choses qui sont à faire? Alors, dans ce cas-là, vous allez trouver mon cher collègue, et il va vous donner des choses à faire. Je pense qu'il en a pas mal sous le coude. Oui. Non seulement peut-être d'une façon matérielle, avec encore des choses qui sont à terminer pour cette église, des petites finitions, mais également dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine du service, etc., etc. Je crois que certainement, il y a beaucoup de choses à faire. Après cette préparation, donc, il faut agir, pas d'immobilisme, mais il faut faire. Il faut faire quelque chose, il faut aller, tout ce que ta main trouve à faire, eh bien, fais-le, jette ton pain à la surface des eaux. Quand on est jeune converti, quand on est jeune chrétien, on est plein de feu, plein de zèle. Rien ne nous arrête. On prend des prospectus, on parle à tout le monde. Et puis la vie s'installe. Nous aussi, on s'installe. Et puis, ben, ça va. Je coule, zen. Je reste tranquille. Et dehors, il y a des âmes qui se perdent. Je lisais un article, actuellement les sectes font de plus en plus d'adeptes. Pourquoi? Parce qu'elles sont dehors, parce qu'elles vont à la rencontre des gens. Et comme les gens sont paumés, certains se laissent avoir et se laissent entraîner avec ce que les sectes leur disent. Mais nous avons plus que ce que les sectes ont, et je crois que nous avons besoin d'être des témoins, vous recevrez une puissance, vous êtes oints par le Saint-Esprit, vous êtes sauvés pour servir et vous avez besoin, eh bien, de rendre témoignage parce qu'il y a encore des chaises là-bas. Elles ne sont pas mises encore, Voilà, et ce local, il peut se remplir encore davantage. Alors, il faut être des témoins. Et voyez-vous, je me souviens quand j'étais jeune converti, j'allais dans les rues avant les réunions, hein, le dimanche avant les réunions, j'allais distribuer les prospectus, et ma joie, c'était de revenir avec quelqu'un à la réunion. Vous allez me dire, mais on est un peu loin du centre-ville, mais ça fait rien, vous les amenez avec votre voiture. Est-ce que vous avez toujours des prospectus? Est-ce que vous utilisez toujours? J'ai décidé de ne pas manquer les occasions de parler du Seigneur. Alors quand les gens viennent chez moi, dans mon lotissement, bonjour, on est l'agence immobilière, est-ce que vous voulez vendre votre maison? Non. Mais j'ai toujours un petit évangile, une carte connaître-dieu.com, hein, et à portée de la main. Et ils me donnent leur prospectus. Et moi, j'ai dit, attendez, j'en ai un aussi à vous donner. Et puis voilà, je leur donne. J'ai semé. J'ai semé. L'autre jour, j'étais en train de me promener. On a un beau coin à côté de chez nous où on voit la presqu'île, les îles, etc. Et j'étais là, je réfléchissais, je méditais, je priais. Puis il y a un monsieur qui est venu. Alors on a parlé bonjour, il fait beau, etc. Il y avait des petits enfants. Et puis après il me dit, ah oui, eh ben, j'ai perdu ma femme, etc. Oh, j'ai dit, ben, et je lui ai rendu témoignage aussi. Puis j'avais mon petit sac à dos, et dans le sac à dos, eh bien, il y avait les prospectus et tout ça, parce que je pars toujours. Dans ma sacoche, j'ai toujours mes prospectus, parce que je veux que ce soit à la caisse d'un supermarché, que ce soit dans telle occasion ou telle autre. Et je me dis, Seigneur, il y a tellement de gens qui sont dans la peine. Il y a tellement de gens qui ont besoin de ta grâce. Alors j'ai décidé, même de prendre des évangiles et de faire tout le lotissement, hein, pour la fête de Noël. J'avais donné à tous mes voisins un petit truc sur Noël, et un petit fascicule, et j'avais marqué mon nom aussi pour qu'ils sachent d'où ça venait, hein, et je l'ai fait. Et je crois que nous avons besoin de faire ça. On dit oui, mais vous savez, frère, les prospectus. Je suis le résultat d'un prospectus. C'est par un prospectus que mon père, ma mère, mon oncle et moi, nous avons été sauvés. Par un prospectus. Alors j'y crois au prospectus. Alors continuons. Continuons à donner des prospectus. Continuons à inviter les gens par Internet, par d'autres moyens. Continuons à leur faire passer peut-être des mails. On reçoit tout un tas de mails, de diaporamas de toutes sortes. Eh bien, envoyez-leur une pensée chrétienne, enfin, etc. Faites quelque chose. Mais rendez témoignage. Faites ce que vous dira de faire. Eh bien, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et on est étonné de ce que Dieu peut faire avec nous. Nous avons besoin aussi de l'approbation de Dieu. Et combien c'est formidable quand nous lisons David réussissait dans toutes ses entreprises. Ézéchias, il nous est dit que lui aussi, il réussissait dans toutes ses entreprises. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Au travers de différents hommes de Dieu, nous voyons cela. Et dans Juge, va avec la force que tu as. L'Éternel est avec toi. Oui, l'Éternel est avec nous. Et il sera celui qui nous accompagne. Et il sera ce que nous devons faire. Parce que qu'est-ce qu'il est dit encore au verset 8? Que je te dise ce que tu dois faire. Parce qu'il y aura des moments donnés où nous allons et où nous allons rendre témoignage, etc. Mais nous aurons aussi des moments où l'Éternel nous dira ce que nous devons faire. Et vous savez, il ne se trompe pas, le Seigneur, quand il nous demande quelque chose à faire. J'en veux pour preuve ce témoignage qui me revient à l'esprit de cette mamie qui un jour a entendu le Seigneur qui lui disait, alors qu'elle priait, va trouver Madame Gisquet, pour ne pas la nommer, va la trouver dans la ville de Toulouse, elle a besoin de moi. Et cette grand-mère ne savait pas dans quelle maison habitait Madame Gisquet. Et elle est partie, et elle a marché, puis elle a sonné une porte, elle a dit, je vais essayer de me renseigner. Elle dit, bonjour madame, est-ce que vous connaissez Mme Gisquet? Mme Gisquet, c'est moi. Ah bon? Bien, voilà, le Seigneur m'a montré que vous aviez besoin de lui. Et Mme Gisquet a éclaté en sanglots, en pleurs, parce qu'à l'époque, leur fils Bernard, qui aujourd'hui est serviteur de Dieu, mais leur fils Bernard était aveugle. Et elle partait avec Bernard pour se jeter dans le canal à Toulouse. Mais Dieu avait parlé. Je lui montrerai ce qu'il doit faire. Et peut-être que Dieu nous a demandé quelque chose. Vous savez, des fois, on a manqué l'occasion. On a manqué l'occasion. Parce que Dieu nous a dit, voilà, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu ailles rendre témoignage à telle personne. Oui, mais Seigneur, pas aujourd'hui. J'ai pas le temps. Hein, parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est le jour de la lessive ou c'est le jour du repassage et c'est le jour de ceci. Et puis là, j'ai quelque chose à faire. C'est important. Mais est-ce que demain, cette âme sera encore vivante? Est-ce qu'elle sera encore disposée à entendre le message de la parole de Dieu? J'ai prêché un jour, enfin j'ai rendu témoignage un jour à un voisin, c'était à Lézignan-Corbières, à l'époque où j'étais pasteur là-bas. Et là, le soir, eh bien, après souper, il faisait beau, et j'ai trouvé mon voisin devant la porte avec une jambe au plâtre. Ça m'a perdu de lui rendre témoignage. Et puis cet homme, je l'ai invité à venir aux réunions. Il m'a dit, non, mais aux réunions, j'y suis chaque fois que vous avez une réunion. Je dis, ah bon? Mais je ne vous ai jamais vu. Il me dit, mais je suis sur ma terrasse et comme les fenêtres sont ouvertes, eh bien j'entends tous les chants et tout ce que vous dites, donc j'assiste à toutes vos réunions. Vous voyez, comme quoi, des fois, c'est surprenant. Et nous avons parlé avec cet homme, et puis je lui ai donné une Bible, parce qu'il n'avait plus sa Bible, il l'avait perdue, et je lui ai donné une Bible, et puis nous nous sommes quittés. Il est parti en vacances, et moi aussi. Je suis rentré de vacances, lui, il n'est jamais rentré. Parce que sur l'autoroute, il a eu un accident de voiture, et il a été tué ainsi qu'un de ses enfants. Il ne faut jamais remettre. Mais quand le Seigneur nous dit, voilà ce que tu dois faire, je te montrerai ce que tu dois faire, eh bien, soyons obéissants. Voyons que pour Saul de Tarse, Ananias a entendu le Seigneur, on te dira tout ce que tu dois faire. Ou Philippe, quand il a rencontré l'Éthiopien, eh bien, il nous a dit, va sur le chemin qui est désert. Et là, je te montrerai un homme qui a besoin de toute ta grâce. Et je termine avec Dieu lui donna un autre cœur. Oui, Dieu nous donne un autre cœur. Et le cœur que Dieu nous donne quand nous sommes saisis par son onction, quand nous avons passé ces différentes étapes, eh bien, Dieu nous donne un autre cœur, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi, dit le Seigneur. Notre cœur est changé, notre cœur est transformé. Nous n'avons plus un cœur de sacrificateur ou de lévite, mais nous avons un cœur de bon samaritain qui s'arrête au pleuré du blessé, qui va le soutenir, qui va le soigner, qui va l'amener jusque dans l'hôtellerie. L'Esprit de l'Éternel le saisit, parce qu'il a rencontré d'autres prophètes, et il a été saisi lui aussi, et il s'est mis à prophétiser. Et le résultat a été qu'ils se sont posé une question: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Et l'on dira de vous, de toi, mon frère, ma sœur, qu'est-il arrivé? Tout simplement, il a l'onction de l'Esprit. Il a reçu la bénédiction du Seigneur. Puisse-t-il en être de même pour vous comme pour moi? Puissions-nous être saisis par l'onction de Dieu ce matin et que nous puissions aller de l'avant pour l'avancement de son règne? Il vient bientôt. Il vient bientôt. Les temps sont courts, la nuit vient où nul ne peut travailler. Alors pendant qu'il en est temps, nous avons besoin encore d'être là à son service. Ne voulez-vous pas? Ne voulez-vous pas de cette onction? Le Seigneur est prêt à vous la donner ce matin. Le Seigneur est prêt à vous renouveler. Peut-être quelqu'un est-il découragé, lassé, fatigué. Vous êtes surchargé de problèmes, de difficultés. Voulez-vous déposer tout cela au pied du Seigneur, au pied de la croix ce matin, et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de toi, Seigneur. On va prier.